les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un assassin chez Eugène Ionesco. Un assassin insaisissable qui a un truc irrésistible. Vous allez le découvrir grâce à Jean-Claude Brialy qui lisait la photo du colonel dans l'émission de Patrice Galbeau, Bonne Nouvelle Grand Comédien. Nous étions le 28 août 1973.
Patrice Galbeau a choisi pour vous une nouvelle de Ionesco, La photo du colonel. J'étais allé voir le beau quartier avec ses maisons toutes blanches, entourées de petits jardins fleuris. Les rues, larges, étaient bordées d'arbres. Des voitures neuves, bien astiquées, stationnées devant les portes, devant les allées des jardins. Le ciel était pur, la lumière bleue. J'enlevai mon pardessus, le mis sur mon bras. « C'est la règle dans ce coin, me dit mon compagnon, architecte de la municipalité. Le temps y est toujours beau. Aussi, les terrains y sont-ils vendus très cher, les villas construites avec les meilleurs matériaux. C'est un quartier de gens aisés, gais, sains, aimables. En effet, ici je remarque les feuilles des arbres ont déjà poussé, suffisamment pour laisser filtrer la lumière, pas trop pour ne pas assombrir les façades. Alors que dans tout le reste de la ville, le ciel est gris comme les cheveux d'une vieille femme et qu'il y a encore de la neige durcie au bord des trottoirs qui y vente. Ce matin, j'ai eu froid au réveil. C'est curieux, on est tout à coup au milieu du printemps. C'est comme si je me trouvais à 1000 kilomètres au sud. Quand on prend l'avion, on a ce sentiment d'avoir assisté à la transfiguration du monde. Encore faut-il aller jusqu'à l'aérodrome, voler 2 heures ou davantage, pour voir l'univers se métamorphoser en Côte d'Azur, par exemple. Tandis que là, à peine ai-je pris le tramway. Le voyage qui n'en est pas un a lieu sur les lieux mêmes. Et si vous voulez bien excuser ce mauvais petit jeu de mots, d'ailleurs involontaire, fis-je avec un sourire à la fois spirituel et contraint. Comment expliquez-vous cela? Est-ce un endroit mieux protégé? Il n'y a pas de collines pourtant tout autour pour abriter contre le mauvais temps. D'ailleurs, les collines ne chassent pas les nuages, n'abrite pas de la pluie, n'importe qui le sait. Est-ce qu'il y a des courants chauds et lumineux venant d'en bas ou d'en haut? On en serait informé. Il n'y a aucun vent, bien que l'air sente bon. C'est curieux. C'est un îlot tout simplement, répondit l'architecte de la ville. Une oasis, comme il y en a un peu partout dans les déserts, vous voyez surgir au milieu des sables arides des cités surprenantes, couvertes de roses fraîches, ceinturées de sources, de rivières. Ah oui, c'est juste. Vous parlez de ces cités que l'on appelle aussi mirages, dis-je pour montrer que je n'étais pas complètement ignorant. Nous longeâmes quelque temps un parc de gazon avec en son centre un bassin. Puis, de nouveau, les villas, les hôtels particuliers, les jardins, les fleurs. Nous parcourûmes ainsi près de 2 kilomètres. Le calme était parfait, reposant. Trop peut-être. Cela en devenait inquiétant. Pourquoi ne voit-on personne dans les rues, demandai-je. Nous sommes les seuls promeneurs. C'est sans doute l'heure du déjeuner. Les habitants sont chez eux. Pourquoi cependant n'entend-on point les rires des repas, le tintement des cristaux? Il n'y a pas un bruit. Toutes les fenêtres sont fermées. Nous étions justement arrivés près de 2 chantiers récemment abandonnés. Les bâtiments, à moitié élevés, étaient là, blancs au milieu de la verdure, attendant les constructeurs. C'est assez charmant, remarquai-je. Si j'avais de l'argent, hélas, je gagne très peu, j'achèterais un de ces emplacements. En quelques jours, la maison serait édifiée. Je n'habiterais plus avec les malheureux dans ce faubourg sale, ces sombres rues d'hiver ou de boue ou de poussière, ces rues d'usine. Ici, ça sent si bon, dis-je en aspirant un air doux et fort qui saoulait les poumons. Mon compagnon fronça les sourcils. La police a suspendu les constructions. Mesure inutile, car plus personne n'achète des lotissements. Les habitants du quartier voudraient même le quitter. Ils n'ont pas où loger autre part. Sans cela, ils auraient tous plié bagage. Peut-être aussi se font-ils un point d'honneur de ne pas fuir. Ils préfèrent rester cachés dans leurs beaux appartements. Ils n'en sortent qu'en cas d'extrême nécessité par groupe de 10 ou 15. Et même alors, le risque n'est pas écarté. Vous plaisantez, pourquoi prenez-vous cet air sérieux? Vous assombrissez le paysage. Vous voulez me donner la frousse? Je ne plaisante pas, je vous assure. Je sentis un coup au cœur. La nuée intérieure m'envahit. Le paysage resplendissant dans lequel je m'étais enraciné, qui avait tout de suite fait partie de moi-même ou dont j'avais fait partie, se détacha, me devint tout à fait extérieur, ne fut plus qu'un tableau dans un cadre, un objet inanimé. Je me sentis seul, hors de tout, dans une clarté morte. « Expliquez-vous, implorai-je, moi qui espérais passer une bonne journée, j'étais si heureux il y a quelques instants. » Nous retournions précisément au bassin. « C'est là, me dit l'architecte de la municipalité, là-dedans qu'on en trouve, tous les jours, 2 ou 3, noyés. »« Des noyés ? Venez donc vous convaincre que je n'exagère pas. » Je le suivis. Arrivé au bord du bassin, j'aperçus en effet, flottant sur l'eau, le corps d'un officier du génie, gonflé, et celui d'un garçonnet de 5 ou 6 ans, roulé dans son cerceau, et tenant dans sa main crispée un bâtonnet. « Il y en a même 3 aujourd'hui, murmura mon guide. « Là, fit-il en indiquant du doigt. » Une chevelure rousse que j'avais prise une seconde pour de la végétation aquatique, émergée du fond, demeurait accrochée sur le marbre qui bordait la pièce d'eau. « Quelle horreur, c'est une femme sans doute. » « Évidemment, dit-il en haussant les épaules. L'autre, c'est un homme et l'autre un enfant. » Nous n'en savons pas plus. C'est peut-être la mère du petit, les pauvres. Qui a fait ça? L'assassin. Toujours le même personnage, insaisissable. Mais notre vie est menacée, allons-nous-en, m'écriai-je. Avec moi, vous ne courez aucun danger. Je suis architecte de la ville, fonctionnaire municipal. Il ne s'attaque pas à l'administration. Lorsque je serai à la retraite, cela changera, mais pour le moment. Allons-nous-en, fis-je. Nous nous éloignâmes à grands pas. J'avais hâte de quitter le beau quartier. Les riches ne sont pas toujours heureux, pensais-je. J'en ressentis une détresse indicible. Je me sentis fourbu, meurtri, l'existence vaine. À quoi bon tout, me disais-je, si ce n'est que pour en arriver là? Vous espérez bien l'arrêter avant de prendre votre retraite, demandai-je. Ce n'est pas facile. Vous pensez que nous faisons tout ce que nous pouvons, répondit-il d'un air morne. Et puis, pas par là, vous allez vous égarer. Vous tournez dans le temps en rond, vous ne faites que revenir sur vos pas. Guidez-moi. Ah, la journée avait si bien commencé. Je verrai toujours ces noyés, cette image n'abandonnera jamais ma mémoire. Je n'aurais pas dû vous montrer, tant pis. Mieux vaut tout connaître. Mieux vaut tout connaître. En quelques instants, nous fûmes à la sortie du quartier, au bout de l'allée en marge du boulevard extérieur, à l'arrêt du tramway qui traverse la ville. Des gens étaient là qui attendaient. Le ciel était sombre, j'étais glacé. Je remis mon pardessus, noué mon foulard autour du cou. Il pleuvait finement, de l'eau mêlée de neige, le pavé était mouillé. « Vous n'allez pas rentrer tout de suite chez vous ?» me dit le commissaire. C'est ainsi que j'appris qu'il était aussi commissaire. « Vous avez bien le temps de boire un verre. » Le commissaire semblait avoir repris sa gaieté, pas moi. « Il y a un bistrot, là, près de l'arrêt, à 2 pas du cimetière. On y vend aussi des couronnes. »« Je n'ai guère envie, vous savez. »« Ne vous en faites pas. Si on pensait à tous les malheurs de l'humanité, on ne vivrait pas. »« Tout le temps, il y a des enfants égorgés, des vieillards affamés, des veuves, des orphelins, des moribonds. »« Oui, monsieur le commissaire, mais avoir vu cela de près, de mes yeux vus, je ne puis demeurer indifférent. » « Vous êtes trop impressionnable, » répondit mon compagnon, me donnant une grosse tape sur l'épaule. Nous entrâmes dans la boutique. « Nous allons tâcher de vous consoler. Donne-moi, commanda-t-il. » Nous installâmes près de la fenêtre. Le gros patron, en gilet, les manches retroussées, laissant voir ses énormes bras poilus, vint nous servir. « Ah, pour vous, j'ai de la vraie bière !» Je fis un geste pour payer. « Laissez, laissez, » dit le commissaire, « c'est ma tournée. » J'étais toujours abattu. « Au moins, dis-je, si vous aviez son signalement. »« Mais nous l'avons, du moins celui sous lequel il opère. Son portrait est affiché sur tous les murs. Comment l'avez-vous eu ? On l'a trouvé sur des noyers. Quelques-unes de ses victimes agonisantes, rappelées à la vie pour un moment, ont pu même nous fournir des précisions supplémentaires. Nous savons aussi comment il s'y prend. Tout le monde le sait d'ailleurs dans le quartier. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas plus prudents ? Ils n'ont qu'à l'éviter. Ce n'est pas si simple. Je vous le dis, il y en a toujours tous les soirs deux ou trois qui tombent dans le piège. Mais lui, il ne se fait jamais prendre. Je n'arrive pas à comprendre. J'étais étonné de m'apercevoir que cela avait plutôt l'air d'amuser l'architecte. « Tenez, me dit-il, c'est là, à l'arrêt du tramway qu'il fait son coup. Lorsque des passagers en descendent pour rentrer chez eux, il va à leur rencontre, déguisé en mendiant. Il pleurniche, demande l'aumône, tâche de les apitoyer. C'est le truc habituel, il sort de l'hôpital, il n'a pas de travail, en cherche, n'a pas où passer la nuit. Ce n'est pas cela qui réussit, ce n'est qu'une entrée en matière. Il flaire, il choisit la bonne âme. » Entame la conversation avec elle, s'accroche, ne la lâche pas d'une semelle. Il propose de lui vendre de menus objets qu'il sort de son panier, des fleurs artificielles, des ciseaux, des miniatures obscènes, n'importe quoi. Généralement, ses services sont refusés. La bonne âme se dépêche, elle n'a pas le temps. Tout en marchandant, il arrive avec elle près du bassin que vous connaissez. Alors tout de suite, c'est le grand moyen. Il offre de lui montrer la photo du colonel. C'est irrésistible. Comme il ne fait plus très clair, la bonne âme se penche pour mieux voir. À ce moment, elle est perdue. Profitant de ce qu'elle est confondue dans la contemplation de l'image, il la pousse, elle tombe dans le bassin, elle se noie. Le coup est fait. Il n'a plus qu'à s'enquérir d'une nouvelle victime. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le sache et qu'on se laisse surprendre quand même. C'est un piège, que voulez-vous ? C'est astucieux. Il n'a jamais été pris sur le fait. Machinalement, je regardais des gens descendre du tramway qui, justement, venait d'arriver. Je n'y vis aucun mendiant. « Ah, vous ne le verrez pas, me dit le commissaire, devinant ma pensée. Il ne se montrera pas, il sait que nous sommes là. Peut-être feriez-vous bien de poster à cet endroit un inspecteur en civil, de façon permanente. » Ce n'est pas possible. Nos inspecteurs sont débordés, ils ont autre chose à faire. D'ailleurs, eux aussi voudraient voir la photo du colonel. Il y en a eu déjà 5 de noyés comme ça. Ah, si nous avions les preuves, nous saurions le trouver. Je quittai mon compagnon, non sans l'avoir remercié d'avoir bien voulu m'emmener visiter le beau quartier et aussi de s'être si aimablement laissé interviewer au sujet de tous ces crimes impardonnables. Hélas, ces révélations instructives ne paraîtront dans aucun quotidien. Je ne suis pas journaliste, je ne me suis jamais vanté de l'être. Les renseignements du commissaire architecte avaient été purement bénévoles. Il m'avait rempli d'angoisse gratuitement. Ce fut plein d'un malaise indéfinissable que je regagnais la maison. Édouard m'y attendait dans le salon d'éternel automne, bas de plafond, sombre, l'électricité ne fonctionne pas dans la journée. Il était là, assis sur le bahut près de la fenêtre, de noir vêtu, tout mince, la figure pâle et triste, les yeux ardents. Sans doute avait-il encore un peu de fièvre. Il remarqua que j'étais accablé, m'en demanda la raison. Lorsque je voulus lui exposer l'affaire, il m'arrêta dès les premiers mots. Il connaissait l'histoire, m'apprit-il de sa voix tremblante, presque enfantine. Il était même surpris que je ne l'eusse pas connu moi-même plus tôt. Toute la ville était au courant. C'est pour cela qu'il m'en avait jamais parlé. C'était une chose sue depuis longtemps, assimilée. Regrettable, certes. Très regrettable, fis-je. À mon tour, je ne lui cachais pas ma surprise qu'il n'en fût pas plus bouleversé. Après tout, peut-être étais-je injuste, peut-être était-ce seulement le mal qu'il rongeait, car il était tuberculeux. On ne peut connaître le cœur des gens. « Si on allait se promener un peu, dit-il, je vous attends depuis une heure. Je gèle chez vous. Il fait certainement plus chaud dehors. » Quoique déprimé, fatigué, j'aurais préféré aller me coucher. J'acceptai de l'accompagner. Il se leva, mit son chapeau de feutre orné d'un crêpe noir, son par-dessus gris fer, prit sa lourde serviette bourrée qu'il laissa tomber avant d'avoir fait un pas. Celle-ci s'ouvrit dans sa chute. Nous nous précipitâmes en même temps. D'une des poches de la serviette, des photos s'étaient échappées, représentant un colonel en grand uniforme, moustachu, un colonel quelconque, une bonne tête plutôt attendrissante. Nous mîmes la serviette sur la table pour y fouiller plus à l'aise. Nous en sortîmes encore des centaines de photos avec le même modèle. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demandai-je. « C'est la photo ? la fameuse photo du colonel? Vous l'aviez là? Vous ne m'en aviez jamais parlé?
Je ne regarde pas tout le temps dans ma serviette, répliqua-t-il.
C'est votre serviette pourtant, vous ne vous en séparez jamais.
C'est pas une raison.
Bref, profitons de l'occasion tant qu'on y est, cherchons encore.
Il plongea dans les autres poches de son énorme serviette noire, sa main trop blanche d'infirme aux doigts recourbés. Il en retira, comment tout cela pouvait-il tenir là-dedans, des quantités inimaginables de fleurs artificielles, des images obscènes, des bonbons, des tirelires, des montres d'enfants, des épingles, des porte-plumes, des boîtes en carton, que sais-je encore, tout un fourbi, des cigarettes. « Celles-là m'appartiennent, dit-il. » Il n'y avait plus de place sur la table.
« Ce sont les objets du monstre, m'écriai-je. Vous les aviez là ?»
J'en savais rien.
« Videz tout, l'encourageai-je. Allez !»
Il continua de fouiller. Des cartes de visite apparurent avec le nom, l'adresse du criminel, sa carte d'identité avec photo, puis dans un petit coffret, des fiches avec les noms de toutes les victimes. Un journal intime que nous feuilletâmes avec ses aveux détaillés, ses projets, son plan d'action minutieux, sa déclaration de foi, sa doctrine.
« Vous avez là toutes les preuves. Nous pouvons le faire arrêter. »
« Je ne savais pas, balbutia-t-il, je ne savais pas. »«
Vous auriez pu épargner tant de vies humaines, lui reprochai-je.
Je suis confus, je ne savais pas, je ne sais jamais ce que j'ai, je ne regarde pas dans ma serviette.
C'est une négligence condamnable, dis-je. »
Je m'en excuse, je suis navré.
Enfin, Édouard, tout de même, ces choses ne sont pas venues toutes seules là-dedans. Vous les avez trouvées, vous les avez reçues.
J'eus pitié. Il était devenu tout rouge, vraiment honteux. Il fit un effort de mémoire.
Ah oui, s'écria-t-il au bout de quelques secondes. Je me rappelle à présent. Le criminel m'avait envoyé son journal intime, ses notes, ses fiches, il y a bien longtemps, me priant de les publier dans une revue littéraire. C'était avant l'accomplissement des meurtres. J'avais complètement perdu tout cela de vue. Je crois que lui-même ne pensait pas à les perpétrer. Il n'a dû songer que par la suite à mettre ses projets en acte. Quant à moi, j'avais pris cela pour des rêveries, ne portant pas à conséquence de la science-fiction. Je regrette de ne pas avoir réfléchi à la question, de ne pas avoir mis tous ces documents en rapport avec les événements. Le rapport est pourtant celui de l'intention à la réalisation, ni plus ni moins, c'est clair comme le jour.
De la serviette, il retira aussi une grande enveloppe que nous ouvrîmes. C'était une carte. Un plan très précis, avec bien indiqué tous les endroits où se trouvait l'assassin et son horaire exact, minute par minute.
« C'est simple, dis-je. Avertissons la police. Il ne reste plus qu'à le cueillir. Dépêchons-nous, les bureaux de la préfecture ferment avant la nuit. Après, il n'y a plus personne. D'ici demain, il pourrait modifier ses plans. Allons voir l'architecte, montrons-lui les preuves. »
« Je veux bien, » fit Édouard, plutôt indifférent. Nous sortîmes en courant. Dans le couloir, nous bousculâmes la concierge au passage.
« On n'a pas idée !» s'écria-t-elle.
Le reste de sa phrase se perdit dans le vent. Sur la grande avenue, essoufflés, nous dûmes ralentir. À droite, les champs s'étendaient, labourés à perte de vue. À gauche, les premiers immeubles de la ville. Droit devant nous, le soleil couchant empourprait le ciel. Des deux côtés, de rares arbres, dépouillés, peu de passants. Nous longions les rails du tramway qui s'étendait loin jusqu'à l'horizon. Trois ou quatre gros camions militaires venus je ne sais d'où bloquèrent soudain la route. Ils étaient stoppés en marge du trottoir. Celui-ci, à cet endroit, descendait sous le niveau de la chaussée qui, elle, semblait de ce fait surélevée. Édouard et moi dûmes nous arrêter un instant. Heureusement, car cela me permit de m'apercevoir que mon ami n'avait pas sa serviette.
Qu'en avez-vous fait? Je croyais pourtant que vous l'aviez sur vous, lui dis-je. L'étourdi. Il l'avait oublié à la maison dans notre précipitation.
Ça ne servirait à rien d'aller voir le commissaire sans nos preuves.
Mais à quoi pensez-vous donc? Vous êtes ahurissant. Retournez vite la chercher.
Je dois continuer mon chemin. Il faut au moins que j'aille à la préfecture prévenir le commissaire à temps qu'il attende.
Dépêchez-vous. Retournez et tâchez de me rejoindre au plus tôt. La préfecture est tout au bout.
Dans une entreprise comme celle-ci, je n'aime pas être seul sur la route. C'est désagréable, vous comprenez? Édouard disparut. J'avais assez peur. J'allais vivement droit vers la préfecture. Le jour baissé, la bise se faisait dure, j'étais inquiet. Édouard pourrait-il me rejoindre à temps? Et puis j'étais en colère contre la police. Ces gens-là ne sont bons que pour vous embêter, pour vous apprendre les bonnes manières, mais quand vous avez vraiment besoin d'eux, quand c'est pour vous défendre, à d'autres, ils vous laissent tomber. Il n'y avait plus de maison à ma gauche. Des deux côtés, les champs gris. Cette route ou cette avenue n'en finissait plus avec ses rails de tramway. Je marchais, marchais. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Brusquement, il surgit devant moi. Aucun doute, c'était l'assassin. Autour de nous, rien que la plaine assombrie. Le vent jeta contre le tronc d'un arbre nu une feuille d'un vieux journal qui s'y colla. Derrière l'homme, au loin, plusieurs centaines de mètres, se profilaient dans le soleil couchant les bâtiments de la préfecture près de l'arrêt du tramway que l'on voyait arriver. Des gens descendaient tout menus à cette distance. Aucun secours n'était possible. Ils étaient beaucoup trop loin. Ils ne m'auraient pas entendu. Je m'arrêtai pile, paralysé sur place. Nous étions face à face, à deux pas l'un de l'autre. Je regardais en silence, attentif. Il me dévisageait lui aussi, à peine ricanant. C'était un homme entre deux âges, maigriot, chétif, très court de taille, mal rasé, ne semblant pas avoir ma force physique. Il portait une gabardine usée et sale, déchirée aux poches, des chaussures aux bouts troués à travers lesquels ses orteils perçaient. Sur la tête, il avait un chapeau tout abîmé, informe, une main dans la poche. De l'autre, crispé, il tenait un couteau avec une grande lame, projetant une lueur livide. Il me fixait de son œil unique, glacial, de la même matière, du même éclat que le tranchant de son arme. Jamais je n'avais vu un regard si cruel, une telle dureté. Et pourquoi, d'une telle férocité? Un œil implacable, de serpent peut-être, ou de tigre, meurtrier sans besoin. Aucune parole amicale ou autoritaire, aucun raisonnement n'aurait pu le convaincre. Toute promesse de bonheur, tout l'amour du monde n'aurait pu l'atteindre. Ni la beauté n'aurait pu le fléchir, ni l'ironie lui faire honte, ni tous les sages du monde lui faire comprendre la vanité du crime comme de la charité. Les larmes des seins auraient glissé, sans le mouiller, sur cet œil sans paupières, ce regard d'acier. Des bataillons de Christ seraient succédés en vain pour lui sur les calvaires. Lentement, je sortis de mes poches mes deux pistolets, les braquai en silence deux secondes sur lui qui ne bougeait pas, puis les baissai, laissai tomber mes bras le long du corps. Je me sentis désarmé, désespéré, car que peuvent les balles, aussi bien que ma faible force, contre la haine froide et l'obstination contre l'énergie infinie de cette cruauté absolue, sans raison, sans merci.
C'était « Bonne nouvelle, grand comédien » de Patrice Galbaud. Jean-Claude Brialy lisait « La photo du colonel » de Jeanne Ionesco. Édition Gallimard, première diffusion sur France Culture le 28 août 1973. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».